Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour. Une femme ou un homme? Quel Premier ministre Emmanuel Macron va-t-il nommer une fois la démission de l'équipe Castex actée? Le chef de l'État devrait nommer celle ou celui qui conduira la bataille des législatives. 2030, l'Europe en aura fini avec ses substances chimiques toxiques pour la santé et l'environnement, des polluants du quotidien présents partout, dans les jouets, les biberons, les tétines, les emballages alimentaires, les vêtements et j'en passe. Au Texas, la justice suspend l'exécution de Mélissa Lucio, condamnée pour infanticide. Elle a toujours clamé son innocence. Et puis une religieuse française de 118 ans, déjà doyenne de France, elle est en passe de devenir la nouvelle doyenne de l'humanité après la mort annoncée d'une japonaise de 119 ans. Le livre Guinness doit valider ce record.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui l'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Qui sera, Laurence, le Premier ministre du nouveau quinquennat Macron?
Eh bien, le président ne semble pas pressé de répondre à cette question. Il a déjà dit qu'il comptait garder Jean Castex et son équipe au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Hypothèses et spéculations vont donc déjà bon train, Simon Le Baron. Quels sont les critères recherchés pour le ou la future chef du gouvernement?
Il ou elle doit avoir deux qualités indispensables, juge un proche de l'actuel locataire de Matignon. Un, avoir la culture du dialogue pour piloter les concertations tous azimuts que veut lancer Emmanuel Macron sur la santé, l'éducation, les institutions et gérer un contexte social potentiellement explosif. Deux, avoir la fibre écolo puisqu'il ou elle sera chargé de la planification écologique. Le président en avait fait un argument électoral pour parler aux supporters de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot dans l'entre-deux-tours. À quelques semaines des législatives, l'identité de ce Premier ministre censément vert devra prouver que ce n'était pas qu'un effet d'annonce. Donner du souffle à la campagne qui commence, voilà une autre qualité requise. Savoir fédérer une majorité hétéroclite aussi, être technique sur les dossiers mais proche des gens, venir plutôt de la gauche mais pas forcément, tout dépendra de l'équilibre du gouvernement. Bref, les macronistes n'en finissent plus d'alimenter la fiche de poste. Une chose paraît certaine, à compétence égale, c'est une femme qui sera choisie, encore faut-il trouver la perle rare. Un ministre le reconnaît, il n'y a pas 36 solutions sur le banc de touche.
Simon Le Baron, ajoutons que le Conseil des ministres de cette semaine, probablement le dernier, donc qui va réunir l'actuel gouvernement Castex, se tiendra jeudi matin à 11h et non demain comme prévu initialement. Arrêtons-nous à présent sur l'abstention. La grande gagnante de ce scrutin présidentiel est notamment en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Quasi 39% d'abstention au second tour dans ce département, 31% dans la ville de Noisy-le-Grand, 34% à Pantin, 47,5% à Bobigny. Pourquoi, alors que les législatives approchent, Kathleen Comte est allée poser la question à Aubervilliers, commune de Seine-Saint-Denis, où près de 46% des habitants ne se sont pas déplacés pour voter.
Ici, à Aubervilliers, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du premier tour. 6 électeurs sur 10 ont fait ce choix. Pour Monique, 77 ans, l'affiche Macron-Le Pen a moins mobilisé les foules.
Les gens ont beaucoup voté Mélenchon et comme il n'était pas là et que les deux autres, ça ne les intéressait pas.
Pour Linda, 35 ans, c'est un autre problème.
Les gens ont beaucoup de raisons de ne pas voter parce que l'État est complètement désengagé dans nos quartiers. C'est nous qui faisons beaucoup de travail à la place de l'État ici. De fait, les populations ne peuvent pas se sentir concernées par ce qui se passe au niveau politique.
Et pour les législatives, est-ce que les habitants vont se remobiliser? Oui, dit Janine, 77 ans.
Étant donné que Jean-Luc Mélenchon est sorti en tête ici, je pense que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon iront. Je pense que ça peut mobiliser davantage, oui.
Christine, elle, a plus de doutes.
Je crois pas. Déjà, quand on va pas voter pour des présidentielles, après, aller voter, non. Je pense que ça va pas changer.
Remobiliser les foules, c'est entre autres le rôle de Mathilde Marchand, militante insoumise à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis.
C'est un vrai défi pour remobiliser les personnes qui ont déjà voté Mélenchon et pour aller en chercher des nouvelles en leur disant si, il reste cette option-là. Après, on se fait pas d'illusions non plus. Il y a moins de gens qui se déplacent pour les législatives, mais c'est pas une raison pour abandonner, donc on tente le coup quand même.
Réponse le 12 juin prochain, date du premier tour des législatives.
Kathleen Comte de France Bleu Paris. Une figure du PS rouennais, tête de liste PS Europe Écologie Les Verts au régional de 2021, la maire de Comte, le Mélanie Boulanger, mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, elle continue de clamer son innocence. Le bras de fer aura duré des années face au monde industriel, mais la Commission européenne qui veut protéger notre environnement quotidien des substances toxiques a gagné. Les phtalates, les bisphénols, PVC et autres retardateurs de flamme potentiellement cancérogènes ou mutagènes seront interdits d'ici 2030. Ce n'est pas pour tout de suite, certes, Célia Kiré, mais c'est la promesse d'un grand pas en avant pour notre santé.
En langage européen, c'est un pilier de la stratégie zéro pollution de la Commission. Dans notre quotidien, ces interdictions auront des conséquences majeures sur la fabrication des emballages, des cosmétiques, des vêtements ou des jouets. Retardateurs de flammes, bisphénol, PVC, certaines substances jugées dangereuses étaient déjà écartées. Désormais, la Commission veut un plan d'attaque plus large pour englober des catégories de substances. Exemple, le bisphénol, tous seraient interdits et pas seulement le bisphénol A. Dans le viseur de la Commission, il y a notamment ces composés perfluorés présents dans les emballages, cartons de pizza, papier cuisson. Il y a aussi les retardateurs de flammes, très répandus dans certaines mousses de mobilier pour enfants ou de sièges auto. Le PVC est également sur cette liste noire. Ce plastique est omniprésent dans les jouets, les meubles, les chaussures ou les matériaux de construction. Les associations comme Agir pour l'environnement saluent une avancée, mais elles le savent, les industriels de la chimie vont batailler pour jouer la montre ou obtenir des dérogations.
Le danger d'une troisième guerre mondiale est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Des mots signés Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, au lendemain du déplacement en Ukraine des Américains Anthony Blinken, secrétaire d'État, et du chef du Pentagone Lloyd Austin. Les États-Unis qui réunissent aujourd'hui sur leur base de Ramstein en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour voir comment armer davantage encore l'Ukraine. Et pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tentera de jouer les médiateurs auprès de Vladimir Poutine, le président russe. Antonio Guterres qui, après Moscou, ira à Kiev dans la foulée. L'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a changé la donne pour la Finlande et la Suède. Leur neutralité militaire de longue date n'est peut-être plus le meilleur moyen d'assurer leur sécurité nationale. Selon la presse locale, les deux pays devraient poser leur candidature pour adhérer à l'OTAN. Elle devait recevoir l'injection létale demain mercredi. Mélissa Lucio a vu son exécution suspendue in extremis par une cour d'appel du Texas aux États-Unis. Cette mère, condamnée à mort pour le meurtre de sa fille de 2 ans au terme d'un procès controversé, a fait l'objet d'une campagne de soutien international jusqu'en France, où Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et ex-candidate à la présidentielle, s'était aussi engagée pour cette femme. Correspondance depuis Houston de Thomas Arm.
Mélissa Lucio était dans sa cellule quand un élu républicain de son comité de soutien, Jeff Leach, l'a appelé.
Mélissa. Mélissa, vous avez entendu la nouvelle?
Have you heard the news?
Non, quoi?
La Cour criminelle d'appel a suspendu votre exécution prévue pour ce mercredi.
Êtes-vous sérieux?
Mélissa est dans le couloir de la mort depuis 15 ans. Lors de son interrogatoire, la police l'avait accusée d'avoir poussé sa fille du haut d'un escalier. Au bout de 5 heures, elle a finalement admis avoir fessé et mordu son enfant. Le procureur a alors considéré que c'était un aveu de meurtre et réussi à la condamner à la peine de mort.
Mais qu'est-ce que cela veut dire?
Well, it means...
Bien, cela veut dire que vous allez vous réveiller jeudi matin. La décision de la cour d'appel est très puissante et il semble que vous aurez au minimum un nouveau procès.
La date de son exécution s'approchant, la mobilisation n'a cessé de s'étendre. Des stars comme Kim Kardashian ou des élus républicains pourtant favorables à la peine capitale, tels Jeff Leach, ont fait pression.
On va tout faire pour que vous soyez libre. C'est notre objectif.
Aujourd'hui, 5 des 12 jurés qui l'ont condamné ont demandé un nouveau procès. Selon eux, l'erreur judiciaire est manifeste. Houston, Thomas Arms. France Inter.
Twitter, le nouveau jouet d'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde a réussi son pari. Il rachète le réseau social pour 44 milliards de dollars, objectif du milliardaire américain, défendre la liberté d'expression sur l'une des places publiques les plus influentes du monde, avec ses plus de 300 millions d'utilisateurs. Le patron de Tesla et de SpaceX estime que cette liberté n'est pas suffisamment respectée sur Twitter et que la modération des contenus y est trop sévère. De nombreux élus américains et étrangers considèrent au contraire que cette modération est insuffisante pour lutter contre la haine et la désinformation. 10 000 euros d'amende par jour pour Donald Trump, tant qu'il refuse de fournir des documents comptables et fiscaux à la justice. Condamnation d'un juge de New York dans le cadre d'une enquête au civil sur son groupe. La Trump Organization est soupçonnée d'avoir volontairement surestimé la valeur de propriétés immobilières lorsqu'elle demandait des prêts bancaires et de les avoir sous-estimés auprès du fisc quand il s'agissait de payer moins d'impôts. Pékin, dans l'angoisse d'un confinement très dur, près de 50 cas Covid enregistrés dans la capitale chinoise. État d'alerte déclaré, les Pékinois observent depuis plusieurs semaines le chaos dans la ville reconfinée de Shanghai, d'où leur crainte d'une mise sous cloche. Retenez son nom, elle s'appelle Lucille Randon. Cette religieuse française de 118 ans, appelée Sœur André, est en passe de devenir la doyenne de l'humanité, après le décès annoncé hier de la japonaise Kane Tanaka, qui était la doyenne de l'humanité du haut de ses 119 ans. Si Sœur André n'est pour l'instant que pressentie pour devenir la femme la plus âgée du monde, c'est parce que le Guinness Guinness des records doit en effet mener des investigations, Hélène Chevalier.
Cyril de Poudan s'affaire depuis quelques heures à préparer le dossier de validation pour le Guinness Book des records.
Le Guinness a besoin d'un dossier mis à jour, évidemment, puisque le dossier du GRG, je l'ai fait en 2016.
Même s'il ne l'a jamais rencontré, ce passionné de généalogie connaît bien la vie de Lucille Randon. C'est lui qui a validé son dossier de super centenaire il y a 5 ans. Pour vérifier son âge, il a mené une véritable enquête, retrouvé son acte de naissance, des recensements, des cartes d'électeurs, mais aussi des archives de sa vie avant qu'elle rentre dans les ordres.
Par exemple, j'ai des lettres de recommandation de l'époque où elle était gouvernante. Je certifie que mademoiselle Lucille Randon est restée chez moi en qualité de gouvernante institutrice pendant 12 ans. J'ai toujours eu à m'en louer. Elle nous a témoigné un dévouement au-dessus de toutes
les loges. Le but est de prouver qu'il s'agit bien de la même personne.
On contrôle les articles dans la presse, on regarde ce que ça raconte et on essaye de vérifier si on arrive à lier ça au document, voir si ça concorde. Comme Jeanne Calment qui donnait le nom de sa professeure de piano, c'est le même principe.
Alors certes, Lucille Randon ne détient pas le record de 122 ans détenu par Jeanne Calment, mais elle s'en approche.
Kané Tanaka, qui vient de décéder, était encore plus âgée. Elle avait 119 ans, mais 118, c'est déjà absolument exceptionnel. En ce moment, 113 ans et plus en France, il n'y a que Lucille Randon, c'est tout.
Et si le Guinness valide son dossier, la Française deviendra la quatrième personne la plus âgée connue de l'histoire de l'humanité.
Lucille Randon, une super centenaire qui vit dans un EHPAD de Toulon. Et puis deux mastodontes du football européen en piste ce soir pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions, Manchester City-Real Madrid. Ce sera à 21h à l'Etihad Stadium de Manchester.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique Thomas Legrand à suivre.